Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Malaysia Airlines flight MH17 had crashed in a Ukrainian field.
Bonjour, c'était un verdict très attendu aux Pays-Bas et qui ne va pas améliorer les relations entre La Haye et Moscou, celui du procès du crash du vol MH17. La justice néerlandaise a confirmé que l'avion de la compagnie Malaysian Airlines, qui a explosé en plein vol en juillet 2014, a bien été abattu par un missile de fabrication russe tiré depuis l'est de l'Ukraine. Moscou a toujours démenti cette information. Les relations entre les Pays-Bas et la Russie sont donc au plus bas depuis ce drame, la grande majorité des victimes du crash étant néerlandaises. Les explications d'Antoine Moutot.
Ce que veut Poutine, c'est restaurer un grand empire russe. C'est là son délire. Ces mots se sont prononcés le mois dernier au Parlement néerlandais par le Premier ministre Mark Rutte. Selon lui, si jamais la Russie finissait par gagner la guerre en Ukraine, le Kremlin n'hésitera pas à passer à l'étape supérieure en attaquant un autre pays proche. Les Pays-Bas ont beau se trouver à plus de 1200 km de l'enclave russe de Kaliningrad et à 2300 km de Moscou, le conflit russo-ukrainien inquiète énormément le pays. D'autant plus que depuis le 17 juillet 2014, une partie des Néerlandais se sent bien malgré elle directement impliquée. Ce jour-là, le vol MH17 de la Malaysia Airlines disparaît subitement des écrans de contrôle. Il était parti quelques heures plus tôt d'Amsterdam et devait atterrir à Kuala Lumpur. L'avion a en fait été pulvérisé dans le ciel de l'est de l'Ukraine. Les 298 occupants de l'avion meurent dans la catastrophe. 193 étaient néerlandais. Selon une enquête internationale, leur Boeing a été détruit par un missile Buk de fabrication russe tiré par une unité indépendantiste pro-russe. Mais la Russie, elle, nie toujours toute implication et s'est même opposée à la tenue d'un procès aux Pays-Bas dont elle met en cause la neutralité. Une partie des proches de victimes est très remontée contre le président russe Vladimir Poutine, en qui elle voit le véritable responsable. Ces dernières années, les Pays-Bas et la Russie se sont à plusieurs reprises accusés mutuellement d'espionnage et dès 2018, plusieurs ressortissants russes soupçonnés d'être des espions ont été expulsés des Pays-Bas. En 2019, les autorités russes ont interdit de séjour en Russie un député néerlandais très critique envers le Kremlin, notamment sur le dossier MH17. En réaction, une délégation de députés néerlandais avait annulé une visite officielle à la Douma.
Alors que Moscou a annoncé début novembre que la mobilisation partielle était terminée, de nombreux jeunes Russes continuent de recevoir des convocations de l'armée et donc à fuir les 10 ans de prison qu'ils risquent s'ils refusent de se battre contre l'Ukraine. En Irlande, près de 1000 hommes russes sont arrivés en un mois, un chiffre énorme comparé au flux habituel sur l'île. Le reportage à Dublin de Laura Taouchanoff.
Nous avons rendez-vous avec Roman dans un parc de Dublin. L'homme de 30 ans arrive la tête baissée, avec une casquette qui cache ses yeux bleus. Ce gérant d'une banque à Moscou n'a pas encore l'habitude de parler librement.
Ils ne me trouveront pas ici. C'est un sentiment incroyable. C'est ma première expérience dans un pays libre. Vous avez le droit de parler de tous les problèmes de votre pays, vous êtes libre. Mais ce n'est pas parce que je suis parti que je ne ressens plus rien. Je suis bouleversé et j'ai honte.
Son niveau d'anglais est encore moyen. Il se sert d'un traducteur pour nous raconter son départ de Russie. Roman n'a pas attendu de recevoir le courrier de l'armée qui lui annonce que son tour est arrivé. Il a tout quitté après l'appel à la mobilisation de Vladimir Poutine.
J'ai bouclé mes dossiers, rendu mon appartement, j'ai fait un seul sac et j'ai pris un taxi en direction de l'aéroport. Et voilà. Je n'ai pas eu d'autre choix que de partir parce que je suis dans la catégorie 1, vu mon âge et mon service militaire. Et une fois que vous recevez la lettre de l'armée, les soldats peuvent vous arrêter dans la rue, à votre travail, dans le métro. Et vous devez y aller. Poutine, c'est sa guerre. Moi, je ne veux pas tuer quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est terrifiant. Maintenant, je dois trouver un travail pour améliorer mon anglais, faire mes papiers. Il me faudra du temps pour m'adapter à cette ville.
Dans un café près du parc, nous retrouvons Liev. Ce russe est arrivé avant la guerre et fait partie du comité international contre Poutine. Il est devenu un véritable référent pour tous ceux qui aimeraient fuir en Irlande.
J'ai 15 ou 20 amis qui ont quitté la Russie. La plupart sont au Kazakhstan et vivent de leurs économies. Ils ne savent pas quoi faire. Nous, les Russes, nous avons besoin de visas quasiment partout et ça peut prendre des mois. Grâce à moi, ils peuvent voir mes photos sur Instagram et se dire que Dublin est un super endroit pour vivre. Même si je ne dis pas que tout est rose, puisqu'il y a une crise du logement.
Liev décide de passer un appel à son ami, Igoré, coincé au Kazakhstan.
Il dit qu'il sait qu'ici, il y a un haut niveau de vie. En plus, avec le système démocratique, il y a peu de chances pour que la même chose se produise en Irlande.
Le gouvernement irlandais pourrait bientôt placer la Russie sur la liste des pays prioritaires pour les demandes d'asile. Mais il y a une série d'obstacles, explique Claire Marianne Tétard, la directrice de communication au Conseil irlandais des réfugiés, qui a reçu des dizaines de mails d'hommes terrorisés à l'idée de devoir rester en Russie.
La première difficulté, c'est que l'Union européenne s'est mise d'accord pour créer tout un arsenal de sanctions contre les citoyens russes. Donc faciliter les conditions de demande d'asile pour les citoyens russes, bah, ça va aussi à l'encontre de ça. La deuxième difficulté, c'est que on peut avoir dans l'idée des gens qui ne seraient pas demandeurs d'asile, qui seraient des proches du régime actuel en Russie, venus pour soit de l'espionnage, soit pour toute autre raison qui pourrait en fait nuire aussi aux Ukrainiens. Donc on a un devoir de protection des Ukrainiens qui nous amène à avoir un peu plus de vigilance, je pense, à l'égard des citoyens russes. On va mettre en place un accompagnement qui sera différent et c'est vrai que les besoins en fait qui en découlent sont différents.
Pour les Russes, venir en Irlande est une démarche qui engage sur le long terme, car contrairement aux familles ukrainiennes, une fois la guerre terminée, les citoyens russes qui ont fui illégalement ne seront sans doute plus les bienvenus dans leur pays.
Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, beaucoup de pays européens ont expulsé des diplomates russes soupçonnés de se livrer à des activités d'espionnage, mais pas la Hongrie. Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, lui, ouvre grand les bras aux représentants de Moscou. À Budapest, il y a par exemple deux fois plus de diplomates russes qu'à Londres. Florence Labruyère.
Décidément, le gouvernement de Viktor Orban ne fait rien comme tout le monde. En novembre 2021, 46 diplomates russes étaient enregistrés à l'ambassade de Russie à Budapest. Aujourd'hui, ils sont 57 à travailler derrière les grilles imposantes de l'ambassade, située sur l'avenue Andrassy, la plus belle artère de Budapest. À cela s'ajoutent les 3 employés du consulat russe à l'est de la Hongrie. Au total, la Russie compte donc une 60aine de représentants en Hongrie. C'est beaucoup plus que dans les autres capitales européennes, qui ont en outre expulsé des diplomates russes. En mars dernier, un mois après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, la Pologne expulse 45 espions russes, qui selon Varsovie se font passer pour des diplomates. Puis l'Allemagne met à la porte 40 membres de l'ambassade russe à Berlin. Enfin, la France expulse 35 personnes soupçonnées d'espionnage. Or, non seulement la Hongrie n'a expulsé personne, mais elle accueille encore plus de diplomates russes qu'avant. Le gouvernement de Viktor Orban a également accordé le statut de diplomate à l'équipe dirigeante d'une mystérieuse banque russe. Cette ancienne banque du bloc soviétique a déménagé à Budapest en 2019 à l'invitation du Premier ministre Viktor Orban. Grâce à leur statut de diplomate, les dirigeants de cette banque voyagent librement dans toute l'Union européenne. « Notre pays est un nid d'espions », dénonce l'opposition hongroise. Le ministre hongrois des Affaires étrangères assure vouloir simplement garder de bonnes relations avec Moscou. Mais ces déclarations du ministre ne convainquent pas grand monde, car tous les jours, les journaux et les chaînes de l'empire médiatique de Viktor Orban relayent la propagande russe. La Hongrie semble bien être devenue le cheval de Troie de Vladimir Poutine en Europe.
Est-ce que vous connaissez Mastodon ? Si vous êtes sur Twitter, vous en avez forcément entendu parler. Depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social, de plus en plus d'utilisateurs disent qu'ils vont quitter la plateforme pour aller sur Mastodon.
Vous souvenez peut-être de ce moment l'année dernière où WhatsApp avait annoncé changer ses conditions d'utilisation, ce qui avait provoqué une ruée sans précédent sur les messageries cryptées, Signal et Telegram. S'il arrivait la même chose à Twitter, c'est votre chronique L'Europe du Net. Bonjour Clémence Pénard.
Bonjour Léa Lisa.
Depuis l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk, finalisé fin octobre, de nombreux utilisateurs ont migré vers un autre réseau social européen.
Et oui, ils quittent l'oiseau bleu pour un éléphant violet, ou plutôt un mammouth, puisque ça s'appelle Mastodon. Scandalisé par le licenciement brutal de milliers de salariés, ou inquiet face à de possibles changements dans les règlements de modération de Twitter, de nombreux internautes se cherchent un nouveau nid. Et depuis quelques semaines, difficile de ne pas tomber sur un tweetos qui nous propose de rejoindre ce fameux mastodon, comme l'a fait Irénée Regnault, qui tient sur Twitter le compte « Mais où va le web ?».
Il faut bien comprendre que Twitter, c'est pas un endroit où on peut tenir un débat démocratique. C'est pas des outils qui sont faits pour ça. C'est des outils qui sont faits pour capter de l'attention, pour vendre de la publicité. C'est des business models qui sont par définition toxiques, dont il faudrait se défaire. Donc c'est vrai que quand je vois le temps de cerveau disponible passer sur l'analyse du moindre geste d'Elon Musk, je me dis que ce serait pas mieux finalement de partir sur d'autres outils qui sont au moins aussi bien. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire finalement ?
Irénée n'est pas le seul à penser ça, puisqu'aujourd'hui Mastodon enregistre près de 6 millions d'inscrits. Retenez donc ce nom, Eugen Rochko, 29 ans, un développeur d'origine allemande. Il a commencé à coder Mastodon en 2016 et pour lui l'objectif c'est bien de se défaire du géant américain. Dans un entretien donné à Time Magazine, le jeune programmeur affirme être opposé au précepte libertarien d'Elon Musk, lui qui prône une liberté d'expression sans aucune limite. Selon Rochko, des discours haineux, par exemple, ça ne rentre pas dans la liberté d'expression. Il ajoute que ce serait incompatible avec la mentalité allemande et même avec leur constitution, où la priorité numéro un est de maintenir la dignité humaine.
Mais alors Clémence, comment ça marche ?
Finalement, l'expérience est assez comparable à celle de Twitter. Mastodon permet de partager des messages dans une limite de 500 caractères, des posts qui portent le doux nom de « poète », toutes en anglais, qui veut littéralement dire « coup de sifflet, coup de klaxon ». On peut aussi utiliser des hashtags. La principale différence, c'est que pour devenir un mastonaute, il faut s'inscrire d'abord sur un serveur décentralisé. Bon, je veux pas vous perdre, contrairement à Twitter où on a une seule et même plateforme, pour Mastodon, il s'agit en fait d'un ensemble de serveurs différents qui sont gérés indépendamment. Bien sûr, les utilisateurs de différents serveurs peuvent toujours communiquer entre eux, mais chaque serveur peut définir ses propres règles de discussion. Ainsi, la politique de modération peut varier d'un serveur à l'autre. Et là, vous allez me dire, pas de modération globale, ça va pas justement engendrer plus de trolls extrémistes ? En pratique, non, puisque d'après Eugen Rochko, à nouveau, la plupart des serveurs auraient des règles plus strictes que Twitter. Alors, lorsque des serveurs avec des discours haineux apparaissent, d'autres serveurs peuvent se regrouper pour les bloquer.
Bon, mais j'imagine que tout n'est pas si rose, Clémence.
Et non, et c'est surtout sur le point de la sécurité que le bât blesse. La confidentialité des échanges n'est pas totalement garantie, comme l'explique Mathis Hamel, expert en cybersécurité.
La personne qui a accès au serveur a accès en fait aux données qui sont stockées dessus. Donc notamment, on va avoir le mot de passe, on va avoir les messages privés aussi, donc toutes les conversations privées. Alors ça, c'est aussi le cas sur Twitter par exemple. Mais en fait, la modération sur Twitter, l'administration, ça va être des équipes qui vont avoir des permissions assez restreintes. Alors qu'en fait, sur Mastodon, bah, vu qu'il y a plein de serveurs souvent qui sont gérés par des personnes individuelles, on peut avoir des dérives, on peut avoir des abus qui vont être plus faciles, on va dire.
En bref, difficile tout de même pour Mastodon de faire le poids face à Twitter et ses 400 millions d'utilisateurs actifs. Mais on peut se dire qu'en Europe, des logiciels arriveront à se faire une petite place parmi les grands acteurs américains. C'est une bonne nouvelle pour la souveraineté numérique européenne. Et on est quand même prêt à prendre les paris que cette fois, le Mastodon ne disparaîtra pas. On y croit.
On y croit avec vous Clémence Pénard. Merci. Rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle chronique, l'Europe du Net. Et avant de se quitter, direction Lampedusa, cette île ultra touristique de 20 km² au sud de l'Italie, est aussi un refuge pour les tortues marines, pour pondre alors que ce reptile est menacé d'extinction. Depuis 30 ans, une association italienne et des biologistes passionnés tentent de sauver cet animal centenaire. Le reportage de Blandine Hugonnet.
Après 20 minutes de descente à pied dans une steppe asséchée par le soleil, la plage des Lapins et son eau cristalline. Nous sommes au cœur de la réserve naturelle de Lampedusa gérée par les Gambiente.
Ici, c'est le site principal, historique de la ponte de la tortue Careta Careta. Et sous ces cages de métal, on a 4 nids qui sont environ à 50 cm sous la surface de la plage.
Pieds nus dans le sable blanc, Raquel, volontaire de l'organisation environnementale, nous fait slalomer entre les serviettes de plage pour accéder à un carré protégé et surveillé jour et nuit.
Le site est fermé le soir ici. À l'éclosion de la tortue, nous on est là pour l'aiguiller jusqu'à la mer et éviter toute menace terrestre. Les goélands, les crabes, c'est très important parce que c'est une espèce protégée.
700 mètres plus haut, des vacanciers attendent leur tour pour accéder à la plage en nombre limité, 500 maximum à la fois, et sur réservation. C'est la règle en vigueur depuis l'an dernier, après 25 ans de bataille de l'association Les Gambiente pour remettre le site en état et prioriser la nidification des tortues face à l'exploitation touristique. Elena Prazzi est responsable de la supervision des nids de Lampedusa.
Quand la réserve naturelle a été créée, le site était complètement dégradé. Les véhicules descendaient vers la petite plage où des kiosques illégaux vendaient à manger à des milliers de personnes. On a donc fait tout un travail de réhabilitation environnementale, un chemin piéton et des règles d'usage pour un tourisme plus responsable pour le bien-être de la tortue.
Alors à la pointe de l'île de Lampedusa, on arrive à des grands hangars où sont récupérées et soignées les tortues qui sont blessées, qui ont besoin de soins. On est sur le front de mer et des petites tortues peintes nous indiquent l'entrée.
Je m'appelle Daniela Freddi, je suis la responsable de ce centre de soins pour tortues marines. Celle-là avait un hameçon dans la bouche. C'est un pêcheur qui nous l'a amené rapidement, ce qui nous a permis de lui retirer sans intervention chirurgicale.
Cette biologiste passionnée, une des rares spécialistes de ces animaux centenaires, surplombe une dizaine de bassins d'eau de mer dans cette sorte d'hôpital de campagne à tortues. Une vingtaine sont en ce moment traitées, victimes de l'activité humaine surtout, et des instruments de la pêche à l'espadon en particulier qui tuent 1 million de bêtes par an.
Dans la majorité des blessures, nous opérons pour libérer le tube digestif des lignes de pêche ou pour amputer. Nous traitons les carapaces pour cicatriser d'une collision. Il y a aussi toutes les maladies liées à la pollution, aux produits chimiques et les étranglements à cause des déchets plastiques. Nous n'avons pas changé l'impact que nous produisons sur la mer, alors que les pêcheurs, cause de la mort des tortues, pourraient devenir leurs anges gardiens.
Symbole de la touristique Lampedusa, la tortue s'affiche partout ici, en enseigne de boutique, en t-shirt ou en porte-clés souvenirs. Mais sans subvention, la scientifique dévouée porte cette clinique spécialisée à bout de bras, pourtant lieu de référence internationale. Ouvert au public, le centre de soins tente donc de vaincre la menace de l'indifférence.
Lampedusa, c'est un carrefour pour les tortues. Donc malgré toutes les difficultés économiques liées au total désintérêt des agences de tourisme ou des administrations, nous sommes quand même restés ici. C'est aussi le rôle important de ce centre, sensibiliser grâce à la présence des animaux. On espère, en 30 ans, avoir informé 1,5 million de visiteurs, car les tortues marines sont en train de disparaître de nos mers.
Avec vétérinaire en formation et soigneur bénévole, Daniela nous emmène le soir même dans une petite crique de Lampedusa. Tenue par la carapace, deux tortues guéries sont posées au bord des vagues.
Ok, elle arrive vers vous.
Dans l'eau, une équipe de la fondation suisse Octopus dédiée à l'exploration marine est venue filmer cette remise en liberté. Son fondateur, Julien Pfiffer, encore en tenue de plongée.
De voir ces tortues partir à chaque fois, c'est toujours une petite émotion. Avec un petit pincement, parce qu'on se dit que peut-être d'ici quelques jours, elle va se retrouver dans le même piège où Daniela l'a récupérée. Mais on lui souhaite bon vent, un peu comme un marin qui prend la mer.
C'est l'aboutissement d'un précieux travail de sauvegarde. Mais après 6000 tortues sauvées par Daniela et 500 naissances sur les plages de l'île cette année, ces passionnés de reptiles ancestraux appellent à réagir contre le réchauffement climatique qui met en péril la reproduction de l'emblème de Lampedusa à cause de la hausse des températures qui détermine le sexe de la tortue. Il ne risque de rester plus que des femelles.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux ou via notre podcast. À demain.